Alors, pour ceux et celles qui sont avec nous en visite ou qui n'étaient pas là dernièrement, on est dans une série dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est un merveilleux évangile qui a sa saveur propre, différente de ce qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui ont beaucoup plus de ressemblances dans la manière de construire leur récit. L'Évangile de Jean raconte des rencontres spéciales que Jésus a avec des gens et nous donne les discussions, nous donne des éléments relationnels qu'on n'a pas autant dans les récits des autres évangiles. Et donc, on retrouve des personnages, des fois, qu'on n'a même pas mentionnés dans aucun des autres évangiles. Boum, Jean nous en parle, il nous donne un ou deux, trois rencontres, il nous donne leur dialogue et on apprend vraiment à voir le cœur de Jésus pour les âmes. Jésus est sensible à nos besoins. Jésus est à l'écoute. Jésus est là au bon moment. C'est donner les paroles parfaites pour réfléchir et avoir les paroles qui viennent toucher le cœur comme Dieu veut le faire. Et c'est beau de le voir à travers l'Évangile de Jean. Et on regarde donc une douzaine de personnages et leur rencontre avec Jésus dans l'Évangile de Jean. Et à Pâques, donc, on a commencé en regardant celle avec Pilate. Et là, j'ai utilisé une petite manette qui remplace, et voilà. Avec Pilate, on a regardé à Pâques cette rencontre que Jésus, c'est pas un homme qui voulait rencontrer Jésus, mais Jésus va le rencontrer, cet homme-là, dans une position très inconfortable de juge, d'autorité. Et il va rencontrer la vérité, cet homme non-croyant. Et Jésus va se présenter à lui. Et pourtant, sceptique et surtout sous la politique, Pilate, même si c'est un homme de l'histoire, va passer comme un homme d'histoire qui a condamné Jésus. Mais on se rappelle que Dieu est au contrôle et tout ça était dans le souverain contrôle de Dieu. On a vu la femme samaritaine ensuite, et là ici, c'est Jésus qui va vers elle, il fait un détour. Il va rencontrer cette femme non-croyante ou croyante dans sa religion, une construction de l'Ancien Testament, mais qui était complètement différente à bien des égards. Et Jésus vient la rencontrer dans un endroit peu probable qu'un Juif viendrait rencontrer une femme comme ça. Il fait un effort, il va même se débarrasser de sa distraction, ses disciples, qui auraient été un obstacle pour rencontrer cette femme. Jésus va les occuper, aller chercher du McDo pendant que lui, il s'occupe de parler. Il y a un McDo à Samarie, là, dans la ville, là, aujourd'hui en tout cas. Mais, et il s'occupe de son âme. Hein? Et cette femme, là, il a une extraordinaire rencontre qui va l'amener même à ne pas être capable de regarder rien de ça pour elle. Il faut qu'on en parle à d'autres. Et d'autres vont venir immédiatement. Elle laisse sa cruche derrière. Tout à coup, ce qu'elle venait, qui était important, devient complètement désuet. Elle se fout de l'eau qu'elle venait chercher. Elle venait de rencontrer le Messie, tant attendu. Et tout devenait secondaire. Elle laisse sa cruche derrière pour aller parler de sa foi et de sa rencontre avec Jésus. Une autre rencontre très différente, là, c'est un homme religieux. Et là, c'est pas Jésus qui va à sa rencontre cette fois-ci, on l'a vu la semaine dernière. C'est cet homme-là qui vient, quand c'est le soir, en secret, lui poser ses questions. Il pose même pas ses questions en réalité, il lui parle et Jésus connaît sa question et lui répond à sa question intérieure. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et c'est ce qu'on a entendu la semaine dernière lors des baptêmes, ce Jésus qui prend le temps de parler à un homme religieux cette fois-ci, qui vient sous le couvert de la noirceur pour ne pas être vu, pour parler à Jésus. Et Jésus l'amène beaucoup plus loin que simplement les signes qu'il fait, mais il l'amène à voir l'amour de Dieu qui invite à la repentance et à croire dans son Messie. Et cette semaine, bien, on rencontre un autre personnage bien connu, Thomas. Et là, si, contrairement à tous les autres, des incroyants, chercheurs, un religieux, on a un disciple maintenant qui fait une rencontre. Ce n'est pas le seul disciple non plus qu'on va voir dans l'Évangile. Avoir une rencontre vraiment particulière, nécessaire avec Jésus. Et peut-être vous êtes Thomas ce matin, qui sait, à écouter dans la salle. Je vous salue ceux qui sont en direct à la maison, qui écoutaient en direct à la maison, ou encore vous écoutez en différé. Peut-être vous êtes ce Thomas qui a des doutes. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos doutes? Comment on gère nos doutes? Et les doutes peuvent venir de différents angles, de différentes façons, et prendre aussi, on va se le dire, différentes places dans nos vies. J'aimerais vous lire ici sa rencontre avec Jésus dans Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Je vous lis ces quelques versets. Alors, il venait d'y avoir déjà deux rencontres en passant avec Jésus ressuscité. Et là, ici, on est après la deuxième rencontre. Et là, on dit cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, et vous allez remarquer quatre fois à travers l'Évangile, à chaque fois qu'on nomme son nom, Thomas, celui qu'on appelle Didyme, bien, c'est le nom araméen et c'est le nom grec, tout simplement, qui veut dire jumeau. Jumeau de qui? On ne le sait pas, le texte ne le dit pas. Mais peut-être il y a des jumeaux de Thomas dans la salle, qui ont des doutes aussi, qui sont de la même famille, ou que vous êtes dans la foi, mais que vous vivez aussi des doutes dans des moments difficiles d'épreuves de la foi, et que vous êtes finalement peut-être son frère jumeau ce matin, et vous ne le saviez pas. N'étant pas avec eux lorsque Jésus est venu, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur répondit, « Si je ne le vois pas, dans ses mains, la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je ne m'enfonce pas la main dans son côté, certainement je ne croirai pas. » Et peut-être que vous avez ici « je ne croirai pas », mais c'est vraiment, il y a un double négatif ici dans le texte original. Il dit « certainement, c'est sûr, je ne croirai pas. » Et rappelons-nous ici, là, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il ressusciterait. Ces bons chums, disciples avec qui il est depuis des années, sont 10 à lui dire, on l'a vu. Et il y en a d'autres qui l'ont rencontré. C'était les femmes qui l'ont vu, ils l'ont raconté. Et lui maintient sa position de doute. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison. Et Thomas était avec eux. Pourquoi il n'était pas là la première fois? Il était supposé être là, les 10 autres sont là. On ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. Est-ce qu'il est allé travailler? Est-ce qu'il est en dépression de la situation? Est-ce que la peur l'avait éloigné du groupe? Le texte ne nous le dit pas, mais il n'était pas là où ce qu'il aurait dû être. Mais là, cette fois-ci, il l'est. Et Jésus vint. Toutes les portes étaient verrouillées, comme à la deuxième fois, juste un peu plus haut dans le texte, on voit la même chose. Les portes étaient verrouillées et il se tint au milieu d'eux. Donc, Jésus transcende la matière humaine, la question des portes, et pouf, Jésus apparaît au milieu d'eux, comme l'autre fois. Et il dit, « La paix soit avec vous. » Et certainement, Thomas n'était pas en paix, il doutait. Et il avait besoin d'entendre ces paroles de Jésus, qui gracieusement vient auprès de lui et le rassure. Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce dans mon côté. Cesse d'être incroyant et deviens un homme de foi ou deviens croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Et c'est qui ça? C'est nous. Père Céleste, merci. Merci d'être ceux, nombreux ici, qui avons cru sans t'avoir vu comme Thomas l'a vécu. Et nous sommes heureux, Seigneur, ce matin. Nous sommes libres de venir ici, pas par un acte religieux, pas par obligation, mais en toute liberté, par reconnaissance, par bonheur d'avoir cru en toi et d'être en paix de notre foi dans le Messie, dans le Fils de Dieu incarné en homme, dans le Créateur qui s'est fait homme. Que notre cœur est reconnaissant. Merci Seigneur, bénis la lecture de ta parole et enseigne-nous encore une fois ce matin, chacun de nous, à chacun de nos cœurs, parce que ta parole est vivante et nous croyons à ton esprit qui travaille nos cœurs d'une manière très personnelle. Fais-le encore une fois Seigneur. Dans le nom de Jésus, on te le demande ensemble. Amen. Toute une rencontre que cette rencontre de Thomas avec Jésus. Vous savez, quand on a laissé Nicodème la semaine dernière, chose que peut-être vous n'avez pas réalisée, c'est qu'aucun des autres évangiles parle de Nicodème. Et on a cette longue discussion dans le chapitre 3, mais fait intéressant, on n'avait pas le temps la semaine dernière, mais on apprend un peu plus tard dans les chapitres suivants qu'à un moment donné, on voit ce Nicodème porter du fruit. Nicodème va intervenir à un moment donné dans une rencontre du Sanhédrin. Il va poser une question. Et puis, on va le rabrouer pour ça. Il va commencer à prendre position. Et qui va être là? On nous dit dans le livre de Jean, contrairement aux autres évangiles, qui nous raconte avec celui qui va descendre, Joseph d'Arimathée, qui va descendre Jésus de la croix et en prendre soin. Qui est avec lui? Nicodème. C'est Jean qui nous raconte que cet homme-là est accompagné de Nicodème. Notre Nicodème de la semaine passée semble avoir pris une décision. Et on a trois mentions de Nicodème, unique à Jean, qui nous raconte finalement sa rencontre, mais après ça, des lumières de quelque chose qui s'est passé dans sa vie, qui prend position. Et pour Thomas, on a la même chose. Thomas nous est mentionné dans les autres évangiles que lorsqu'on fait la liste des disciples. Mais aucune fois on interagit dans une histoire où ce qu'on voit qu'il interagit avec Jésus, qu'il y a une question ou quoi que ce soit. C'est ici quatre fois que son nom est mentionné, outre la mention de la liste des hommes qui sont autour de Jésus. Quatre fois on va mentionner des interactions avec notre ami Thomas. Je vous en donne deux pour regarder avec vous ce matin. Regardez avec moi dans le chapitre 11. Chapitre 11, verset 16. On a un petit épisode ici que peut-être vous allez vous rappeler après l'avoir lu, qui passe si facilement incognito. Chapitre 11, verset 14. On est dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Et là, Jésus va partir vers, évidemment, la situation avec Lazare pour sa résurrection. Et on dit, Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais nous allons à lui. » Alors, Thomas, lui, celui que l'on appelle Didyme, l'un dit à un autre disciple, « Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » Il n'avait pas compris la situation, mais il savait qu'il y avait de la pression et qu'on détestait Jésus. On est dans les dernières deux semaines de son ministère. Et sans comprendre qu'est-ce que Jésus allait faire, on voit Thomas, loyal avec Jésus, qui dit, « Bien, allons-y, on va mourir avec lui. » C'est intéressant d'avoir ce gars-là qui est prêt à mourir avec lui, que quand il est ressuscité, puis Jésus le dit, « Bien, il n'y croit pas. » Aussi grande que peut être notre loyauté des fois, à faire quelque chose impulsif pour Jésus tout à coup, que tout à coup, à un moment donné, il y a une autre affaire, puis on peut tomber aussi bas dans le doute. Hein? Vous avez déjà vécu ça? Tu vis un haut moment spirituel, puis hey, là, tu avais une confiance incroyable, puis là, il arrive une autre affaire, puis tu es en petite boule dans ton lit en train de brailler, d'inquiétude. Puis qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ben, notre humanité. On est comme ça, hein? Si fragile, avoir des hauts moments émotionnels, force de foi, et après ça, avoir un moment de découragement et d'être si fragile. Le Seigneur le sait, et gracieux, il va prendre soin ici de Thomas. Mais on voit ici Thomas dans ce moment-là où il est avec Jésus, et aucun autre des évangiles le mentionne, mais Jean nous le raconte. C'est intéressant. Un autre épisode, vous allez trouver ça intéressant, chapitre 14. On ne se rend pas souvent compte à qui est dû les questions précédentes, mais je vous lis chapitre 14, verset 1 de Jean. Quelques versets. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est Jésus qui prend soin de ses disciples. Et croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer un lieu où vous serez. Lorsque je serai allé pour le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Des belles paroles de réconfort de Jésus dans Jean 14 ici, là. Si bien que là où je suis, vous serez aussi. Quant au lieu où je vais, vous le savez, le chemin. Allez, il y a un des disciples qui fait comme, non, je ne sais pas de quoi tu parles, Jésus. C'est qui lève sa main pour dire, c'est quoi? C'est Thomas. Il dit, tu peux, là, tu m'as perdu, là, Jésus, là. Chemin, pas clair là, pour moi, là. Il ose poser une question. Est-ce que vous avez déjà été dans une foule de monde, là, puis tu sais que tu as une question, là, que tu veux poser, là. Mais tu sais, t'es gêné de la poser, puis tu dis, ah, ils vont trouver ma question niaiseuse. Ah, je vois quelques visages, hein? Vous êtes comme ça des fois, hein? Puis là, tu regardes autour, j'espère que... Puis là, quelqu'un pose la question, tu fais, ah, je suis tellement content qu'il a posé la question. Puis là, il y avait un brave qui a osé poser la question que tout le monde se posait, puis qu'on trouvait tout qui était laissé ambivalent, mais personne n'osait lever la main et dire, ben, Thomas, c'est ce gars-là. Thomas, c'est ce gars-là. Non seulement il est loyal, mais Thomas, c'est le gars qui dit, ben, pas clair, Jésus, là, chemin. Qu'est-ce que Jésus fait? Voyons! Non, il ne le reprend pas. Il répond à sa question. Et là va nous venir une grande révélation importante. Qu'est-ce qu'on nous dit tout de suite après? Regardez bien. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment est-ce que tu veux qu'on connaisse le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que vous saviez que cette fameuse déclaration de Jésus était à la suite de la question brave de Thomas? Ça nous passe tellement sous les yeux. On regarde souvent Thomas le douteur, Thomas l'incrédule. Hey, c'est Thomas le courageux qui suit Jésus. Il dit, on va aller mourir avec lui. C'est Thomas le brave qui dit, pas compris ta question, Jésus, peux-tu mettre des clarifications, s'il vous plaît? Et duquel on a une super déclaration qui, depuis 2000 ans, est lue et qui a touché des cœurs et des cœurs à se convertir. Cette déclaration de ce singulière vérité que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous vient de la question de Thomas. Est-ce qu'on peut dire « Merci Seigneur » pour Thomas ce matin? Hein? Un brave qui a osé poser une question parce qu'il ne comprenait pas à Jésus. Osons poser nos questions. Hein? Qui sait quelle révélation va sortir, qui va bouleverser une vie, bouleverser ma vie? C'est Thomas. C'est Thomas. Et fait intéressant, il va être mentionné au chapitre 21, je ne vous le lirai pas, chapitre 21, verset 2, on va le lire dans une histoire plus tard, mais chapitre 21, on voit qu'il a manqué la première puis la deuxième rencontre avec Jésus. Puis le deuxième, il aurait dû être là, mais là, Jésus est gracieux, il va venir le rencontrer, une troisième rencontre. Et il y a une quatrième rencontre, qu'on va lire éventuellement dans une autre prédication, au chapitre 21, il va être là. Il est là. Il ne la manquera pas. Il est avec les disciples. Et là, Jésus va avoir une rencontre avec Pierre, dans le chapitre 21, qu'on regardera. Une rencontre de restauration, quand tu t'es planté royalement, que tu as peut-être même été jusqu'à renier, et que tu peux revenir. Et Jésus va prendre soin de Pierre et avoir une rencontre spéciale qu'on va regarder dans quelques temps. Mais tout ça pour vous dire, c'est les mentions ici qu'on a de Thomas et qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui sont très instructifs. Et j'espère que vous en rappellerez pour apprécier ce que le Seigneur nous donne à travers Jean d'amener ici des informations qui sont vraiment intéressantes. Donc, quatre épisodes qui nous sont mentionnés. Thomas, c'est le gars rationaliste, incapable de vivre avec une question qui n'est pas répondue. Mais j'aime ça aussi. Tu sais, une question, ose la poser. J'aime ça les gens qui posent des questions au lieu de rester isolé dans ton doute avec une certaine culpabilité, une honte, comme si poser des questions, c'était mal, comme si lutter avec certains doutes était quelque chose qu'on devait cacher en dessous du tapis. Non, pas du tout. Gérons nos doutes. On va en parler ce matin, justement. Et donc, on a vu ces rencontres particulières. On a vu la situation. Cette attitude typique de ne pas croire, de vouloir des preuves sur mes conditions. Et tristement, vous savez, il y a tout un petit Thomas en dedans de chacun de nous. Il y a tout un Thomas à l'intérieur de nous, à différents moments de notre vie du moins, soit avant la conversion ou même après la conversion, qui n'est jamais bien loin pour douter. Et ici, le Seigneur nous montre, au-delà de ce que nous, on peut penser de Thomas, puis des fois, on est dur envers Thomas. Soyons gracieux, là, parce qu'on ne voit pas Jésus lui rentrer dedans. Mais ce que je remarque, par exemple, je vois un Jésus gracieux qui vient le rencontrer. Rempli de grâce, malgré son doute qu'il devrait être informé comme les autres. Malgré tout, pourquoi il n'était pas là, je ne sais pas. Mais Jésus vient le rencontrer, malgré ses conditions. Par pure grâce, il prend soin de fortifier sa foi. Et je pense que c'est plus important pour nous de retenir la réaction de Jésus face au cœur douteux que pour nous de retenir et de, en anglais, shame, là, de faire honte à Thomas d'avoir eu des doutes puis d'avoir mis Dieu sur ses conditions. Le texte nous souligne davantage, je crois, le cœur bienveillant de Jésus. Et c'est important, parce que si je ne crois pas au cœur bienveillant de Jésus, je vais m'isoler, je vais avoir honte, je ne parlerai pas de mes doutes avec les autres. Comme si l'ennemi peut utiliser ça aussi pour dire, « Ah, tu manques de foi, tu n'es pas un bon chrétien. » Puis nourrir quelque chose qui est malsain dans nous. Tandis que si on accepte, non, Jésus, il n'est pas comme ça. Jésus, le Fils de Dieu, est comme Dieu le Père, rempli de grâce. Il vient vers moi quand je suis faible. Il n'est pas là en train de me pousser puis de me juger. Il veut fortifier. Je n'ai pas à avoir honte d'aller à Jésus. Vous comprenez? Retenez la réaction de Jésus plutôt que des fois nos sentiments de critique d'être un Thomas. Je veux cultiver d'être un Jésus. Gracieux envers les autres qui ont des doutes. Accueillant. Fortifier la foi plutôt que de juger les questions des autres et les questionnements. Et les moments de vulnérabilité dans ma vie où je me sens faible, je suis découragé, je suis dans la maladie, j'ai besoin d'être fortifié. Que je vis un moment de trouble, d'anxiété et que je n'ai pas besoin de me faire moraliser. Mais d'avoir un Jésus qui vient, « Hey, regarde, tu peux y toucher. Hey, c'est quelque chose, là. Qui se laisse toucher ses cicatrices? » Ce n'est pas des petites cicatrices. Quelqu'un vous a déjà offert de toucher sa cicatrice? Moi, personne ne m'a offert ça. Jésus vient et offre de le toucher. Le texte ne nous dit pas qu'il l'a touché, mais il va donner 5 impératifs. Et ça que le texte nous dit qu'il l'a touché, c'était suffisant du moins pour fortifier sa foi, de rencontrer Jésus. Et Jésus est parmi nous ce matin. Il est disponible comme il l'était à l'époque de Thomas, parmi nous. Il est là où son peuple est réuni. Il est disponible avec cette même attitude pour vous et moi aujourd'hui, peu importe l'état de ta foi ce matin. Mais l'enjeu aussi, remarquez bien, dans les versets qu'on a lus, 5 fois le mot « foi » revient. Juste dans les versets qu'on a lus, du verset 24 jusqu'au verset 29, et je ne compte pas ici les suivants ou avant. Juste dans cette portion-là, 5 fois le mot « foi » est mentionné. L'enjeu est la foi. Et il lui dit littéralement, il dit « ne sois pas incroyant, mais sois croyant. Crois. » Pourtant, il avait dit croire en Jésus et son identité, comme tous les disciples, Thomas. Mais là, à la suite de la résurrection, sans l'avoir vu, c'était difficile jusqu'à ce moment-là. Donc, l'invitation, la grâce de Dieu, on remarque la confession de Thomas qu'on va revenir et la bénédiction que Dieu va nommer immédiatement après. Donc, Jésus appelle Thomas à une foi entière et personnelle. Et on a vu le contexte de ces 4 mentions avec les références qui sont là. Et la vérité clé, c'est que Jésus vient à la rencontre de nos doutes pour nous amener à une foi plus profonde. Et ce moment de doute-là va être utilisé par le Seigneur Jésus pour être un tremplin pour une plus grande foi, pour une plus grande rencontre avec Jésus. Et pour être utilisé dans les Saintes Écritures aussi, pour nous parler encore 2000 ans plus tard de ces défis humains rencontré chez Thomas et qui est typique dans beaucoup d'entre nous généralement. Mais que faire du doute? Le chrétien peut-il douter? J'aimerais adresser cette question-là présentement. Une question qu'on a pris le temps justement l'été dernier, mon épouse et moi, d'adresser avec nos jeunes refs qui sont au camp Patmos, nos jeunes adultes. Que faire de cette question-là du doute? Le doute ne fait pas de toi un mauvais chrétien. OK? Et ça peut être un tremplin pour grandir et avoir une foi encore plus authentique et enracinée si on l'accepte. Cela dépend de ce que tu vas faire avec ton doute et comment tu vas être honnête aussi avec ton doute. Où est-ce que tu vas le cacher? Où est-ce que tu vas en faire une démarche sincère? As-tu déjà eu la honte d'un doute dans ta vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? As-tu osé en parler à quelqu'un? Quelle a été la réaction? Des fois, quand quelqu'un doute, on panique, puis là, on y lance une phrase, un verset, bang, au visage, quasiment comme une gifle. On panique, il y a un doute, tâche, un verset, tâche, un autre verset. C'est douteux comme technique. OK, on va se le dire, c'est douteux comme technique. Je ne vois pas Jésus faire ça. Comment peux-tu aider quelqu'un qui doute dans notre communauté? Bien, je vous dirais ceci en partant, là. Priez pour cette personne-là et priez avec que Dieu lui réponde. Écoutez, accueillez la question. C'est peut-être une question que quelqu'un d'autre a déjà vécue. C'est peut-être une question que vous avez déjà vécue. Et si vous le prenez le temps d'écouter, la personne est torturée de tout ça. Ça l'achale, a besoin d'être entendue. Et de prier avec cette personne-là plutôt que de tout de suite... Puis là, de poser davantage de questions pour comprendre la base de son doute. Poser des questions de clarification, d'intérêt, pour comprendre plutôt que de juger le doute de quelqu'un qui l'amène peut-être à un mauvais comportement. Pourquoi? Où ça a commencé? Ah oui? Qu'est-ce qui t'a semé ça la première fois? C'est quoi dans les Écritures qui, pour toi, ne répond pas à tes questions? Poser des questions pour comprendre la question profonde de la personne et d'où est la source initiale de cette question-là. Sinon, on ne peut pas aider quelqu'un en lui envoyant des coups de bide de même. Ça ne règle rien, là. Et quand on se sent accueilli et que quelqu'un prie avec nous, nous écoute, vous savez ce qui arrive? Notre cœur est apaisé. Ça enlève de la honte, ça enlève de la tension. Et on est en état encore plus favorable pour aller dans la prière sincèrement avec Dieu, accompagné. Seigneur, d'où viennent ces doutes-là? Est-ce que tu peux répondre à mes questions, Seigneur? C'est quoi, dans le fond, que ça cache? Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas de toi qui fait que j'ai cette mauvaise compréhension-là, que j'ai ce doute, que je n'arrive pas à te confier mon inquiétude? Souvent, on le plein de fausses conceptions de Dieu qu'il faut corriger, des mensonges qui sont rentrés à une époque ou à une autre qu'il faut rectifier. Mais si tu ne creuses pas pour le trouver, le mensonge, ben, tu ne pourras pas le déterrer puis le renterrer comme il faut. Et des fois, on a des squelettes, des vieux os qui sont à la surface, pas réglés, et qu'il faut réenterrer comme il faut parce que c'est des mensonges qu'on traîne. Et ça peut empoisonner notre vie. Je me rappelle un moment où mon épouse et moi, on a vécu des moments de doute, puis c'était très intense. Il y a 14 ans, on était en 2012 en Ukraine, dans un processus d'adoption, puis je vais vous le dire, ça a été tough. On avait passé un mois là-bas, là, à dépenser de l'argent, etc. Puis on revient ici au bout de 30 jours, bredouille, puis il faut retourner par la foi qu'il y a deux garçons qui sont disponibles dans 3 semaines, puis de croire que c'est notre dernier rendez-vous, puis c'est le meeting de Dieu, mais il n'y a absolument rien sous nos pieds pour nous certifier rien de tout ça. Et puis ici, j'étais en train de me claquer des pierres aux reins, je dirigeais la louange sans morphine, j'étais en train de souffrir, et on se disait, coudonc, c'est-tu un jugement de Dieu? Il veut-tu m'empêcher d'y aller? Merci Seigneur, beaucoup d'entre vous certainement avaient des idées à me dire, mais vous n'avez rien dit, pas me décourager, moi puis Julie. On avait assez de doutes à porter tout seul. On disait, et vous savez qu'est-ce qu'il y avait comme... Il y avait des affaires là-dedans là, qui n'étaient pas juste du doute envers Dieu, c'était à quoi on va avoir de l'air si ça ne marche pas? Ah oui, j'ai des luttes comme ça moi aussi, bien superficielles. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air si ça ne marche pas? On dit, on pense que Dieu nous conduit là. Là, ça a l'air, là, on s'est trompé, on n'a pas bien entendu la voix de Dieu. On n'a pas bien discerné la voix de Dieu. On s'est inventé une histoire. Vous comprenez? Si tu commences à rentrer là-dedans, là finalement, la pierre aux reins, c'est-tu un avertissement de ne pas y aller? Ben ça pourrait. Tu sais, qui sait? C'est possible. Je suis parti avec une pierre aux reins si j'avais des problèmes. Je me suis tapé une infection urinaire là-bas, là. Mes assurances n'auraient pas couvert, j'avais une condition avant. Là, c'était tout ça qui passait dans ma tête. C'est-tu raisonnable? Et là, on était pris, là, Julie et moi, là, dans beaucoup. Là, on avait laissé les enfants dans 30 jours. Là, repartir sans itinéraire de quand est-ce qu'on va revenir non plus. Je vous avoue là, que on a pelleté du doute. Pas à peu près. Vraiment, ça a été intense dans notre vie, ce moment-là d'attaque. Et peut-être vous savez de quoi je parle parce que vous l'avez vécu à un moment donné dans un autre problème que vous avez vécu. Et là, toutes ces questions-là, des questions sur Dieu, mais des fois, c'est des questions sur mon apparence très égoïste, axée sur la performance, sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ça vient jouer, ça aussi, dans notre tête. Et vous savez, c'est difficile, des fois, d'être honnête, de les dire, mes doutes, les doutes de ma décision. J'ai demandé à quelqu'un de venir prier avec moi. Peux-tu m'aider? J'ai même de la misère à me concentrer dans un moment de doute de mon épreuve pour même me concentrer et prier seul avec Dieu. Puis des fois, vous savez, j'ai besoin d'un frère, d'une sœur dans les grands moments de doute intense, d'épreuve, pour me fortifier, venir à côté de moi. Parce que j'ai même de la misère à prier parfois. Et c'est pour ça que des fois, le plus beau geste que vous pouvez faire avec quelqu'un, c'est de tenir la main et de dire, est-ce que je peux prier avec toi, pour toi? Tu n'as pas besoin de réponse. La réponse est dans le fait d'aller dans la prière, l'amener à Dieu, dans le nom de Jésus. La plupart de nos problèmes, là, ils ne se règlent pas par une action. C'est le fait de le donner à Jésus. Notre doute, c'est là qu'il est rencontré et qu'il faut laisser l'Esprit Saint venir rassurer notre doute, pas juste en nourriture extérieure, rationnelle, d'information. Et des fois, c'est le plus beau geste que vous pouvez faire. En fait, vous pouvez toujours faire ce plus beau geste-là. Et vous ne vous tromperez jamais. Je peux-tu prier avec toi? Je peux-tu prier pour toi? C'est intéressant, l'étude du mot grec lit le doute pour les anciens Grecs. Ils voyaient le doute comme une expression potentiellement perturbatrice et angoissante. Effectivement, le doute amène de l'angoisse dans notre vie. Et il le divise aussi en plusieurs aspects nuancés. Mais le mot « doute » qu'on utilise, nous, vient du latin « dubitare », c'est-à-dire que de vaciller dans son opinion. On est dubitaire ou partagé, ou dubitatif du haut, d'être à deux esprits, ambivalents, en train d'hésiter. Et le doute apporte de l'hésitation d'agir fidèlement envers Dieu. C'est ça qui l'amène, le doute. Il nous empêche des fois d'agir fidèlement, c'est-à-dire avec foi, envers Dieu, malgré le doute. Et donc, cela met un danger qui conduit à l'indécision. Et l'indécision, vous savez, de rester sur place, de ne pas avancer, c'est une décision aussi. Et nous avons le défi d'adresser honnêtement et faire nos devoirs sur notre doute, d'en parler, faire les recherches qu'il faut, aller demander de l'aide. Être dans l'incertitude n'est pas sûr de... C'est l'idée d'être dans l'incertitude, de ne pas être sûr de l'existence ou de la valeur d'une chose, d'être entre deux choses. Et c'est de glisser vers un processus dangereux à l'œuvre dans le cœur humain, de tomber finalement à ne pas faire confiance à Dieu. Comprenez bien ici ce que je suis en train de dire. Le doute n'est pas l'opposé nécessairement de la foi, mais peut l'être une étape, si on le prend bien, sur l'étape de la foi, si on l'adresse honnêtement. Dieu n'a jamais rejeté quelqu'un, excusez-moi, pour ses doutes sincères et honnêtes. Et on le voit ici avec Thomas. Et la Bible, vous savez, est remplie de personnages qui ont eu des moments de doute, de fragilité, et qu'on voit Dieu prendre soin d'eux. Moïse, il y a eu plein de doutes. Regardez à Exode chapitre 3, il y en a-tu eu des doutes? C'était lié à ses capacités. « Mais avoir l'air de quoi? Ah, je bégaye, je parle pas bien, Seigneur. » C'était tout vrai ce qu'il disait. Mais Seigneur ne l'a pas appelé à cause de ses capacités. Mais même à ça, il a dit « Ben, c'est correct, moi t'amener ton frère, il va parler à ta place. » Ça y a créé des problèmes aussi, tout ça. Mais Seigneur a pallié. Il n'a pas condamné. Gédéon, il en a pris soin. Il a donné deux signes plutôt qu'un. Il avait déjà donné un signe avant ça, vous savez. Il en donne encore plus dans son doute, parce que c'était une grosse affaire ce qu'il appelait à faire. Il va le faire aussi avec Naomi, avec l'histoire de Ruth qui vit des doutes et qui, dont Dieu me maudit, je suis la femme amère que Dieu veut rien savoir. Et Dieu va tranquillement fortifier son doute en Dieu, qu'elle n'est pas maudite de Dieu. Et il va prendre soin d'elle. Le Seigneur le fait avec tellement de personnages, je pourrais vous en faire une liste très longue ce matin d'illustrations de cela. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence de doute, mais ce que tu vas en faire, ta gestion de ton doute. Les questions sincères ouvrent la voie, vous savez, à la révélation de Dieu. Et la question de Thomas a amené une grande révélation au chapitre 14, la déclaration de Jésus. Donc, la foi, ce n'est pas de jamais douter, c'est de continuer à faire confiance, même quand il y a du brouillard. La foi, c'est de laisser les promesses de Dieu, sa parole, répondre, rassurer, en attendant d'éclaircissements sur notre situation présente de doute. C'est de laisser les qualités de Dieu rassurer ce qui est certain et doit prendre le dessus sur l'incertitude. C'est de laisser les certitudes aider nos incertitudes. Vous comprenez? Il y a peut-être des choses incertaines présentement. Mais il y a des choses que je sais sur Dieu qui sont certaines. Comment est-ce que ces certitudes-là peuvent venir pallier à mon incertitude présente pour être capable d'avancer malgré les incertitudes du moment? Parce que quand il y a du brouillard, personne n'aime avancer. C'est pas le fun de rouler dans le brouillard. Je me rappelle, il y a juste une semaine et demie, là, il y avait un soir, c'était tellement de brouillard, il a fallu que j'ajuste ma vitesse. Puis dans mon rang, il y en a bien des animaux, là, des chevreuils, puis des dindes, puis tout ce que tu voudras. Là. Un orignal cet hiver. Mais il fallait que j'ajuste ma vitesse, puis c'était stressant, puis j'étais vraiment concentré parce que je voyais tellement peu loin, il fallait que je joue avec mes lumières. C'est pas le fun. C'est inconfortable, on doit... Mais t'ajustes ta conduite. Mais tu avances par la foi, quand même, parce que c'est la direction que Dieu veut que tu ailles, avec la certitude qui est lui, pas moi, pour avancer. Vous savez, Dieu n'est vraiment pas intimidé par les doutes humains. Et laissez-moi vous en donner un exemple, OK? Peut-être que vous n'avez pas remarqué ceci, mais si vous regardez avec moi dans Matthieu 28, OK? Matthieu 28, regardez dans votre Bible un verset que j'aimerais que vous regardiez. Verset 16-17 de Matthieu 28. Jésus, vous savez, a donné la mission, qu'on appelle la grande mission, à des disciples qui étaient en proie au doute. C'est assez spécial, là. Regardez bien, verset 16-17, on dit, « Ils le virent et l'adorèrent, quelques-uns toutefois doutèrent. » Ils le virent, mais quelques-uns doutèrent. Puis qu'est-ce que Jésus fait avec ça? Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. Hein? Je serai avec vous tous les jours. » Il donne les deux tout importants qui viennent de lui. Ça, c'est la certitude pour que vous alliez dans toutes les nations puis apprendre aussi à mettre tous les commandements en pratique. C'est des tout intimidants. Hein? Mais les deux tout que vous devez faire sont basés sur les deux tout que Jésus a dit qu'il allait faire. Est-ce que vous me suivez ou vous avez perdu les tout, là? Hein? Vous en doutez, là, hein? Jésus a émis deux vérités importantes. Toute puissance m'a été donnée. Verset 18. Je suis avec vous tous les jours. Sa présence, au verset 20. Et entre les deux, c'est là qu'il va dire, allez dans toutes les nations. Hey, Seigneur, c'était intimidant, ça. Là, prenez-leur à mettre en pratique tous mes commandements. Hey, hey, Seigneur! C'est des tout intimidants, ça. Mais il y a un tout au verset 18 et au verset 20 qui rend ça possible. La toute-puissance et la toute-présence de Jésus sont les certitudes qui me permettent d'avancer dans ce qui semble incertain, intimidant et facilement. Et Jésus va donner la commission, cette mission-là aux disciples, à un paquet de disciples douteux. Il y en a là-dedans qui doutent. Jésus, ça ne le dérange pas. Parce que c'est lui la stabilité, c'est lui la certitude qui va permettre tout ça, pas nous et nos capacités. Vous comprenez? Jésus, là, il n'est pas intimidé par tes doutes. Et il le fait à combien de fois qu'il l'a prouvé et qu'il le fait avancer ses enfants. Et vous savez, le mal et l'ennemi, ce qui le dérange le plus au monde... Ce qui est le plus dangereux pour l'ennemi au monde, c'est un croyant qui, malgré ses doutes, malgré le brouillard, malgré l'adversité, la persécution, qui avance quand même par la foi en Jésus, quand il n'y a rien autour de lui pour le rassurer. Ça, c'est avancer par la foi. Et ça rend l'ennemi et ses anges inconfortables. Parce que ça, c'est des gens dangereux. Qui vont agir par la foi envers et malgré les circonstances qui apparemment ne sont pas pour moi, mais qui par la foi et confiance totale en Dieu vont avancer par la conviction que Dieu les a appelés à faire cela. Et vous savez, la vraie foi s'exprime, on revient au chapitre 20, regardez le verset 28, la vraie foi s'exprime ici par une grande déclaration, très personnelle. Il n'a pas juste dit, « Oh Seigneur, oh Dieu! » Qu'est-ce qu'il a dit? « Mon. » C'est personnel. « Ah, il est Dieu. » Mais ça ne veut pas dire qu'il est mon Dieu. « Oh Seigneur! » La question, c'est, est-ce qu'il est mon Seigneur? Et là, ici, après avoir vu cela, il fait cette déclaration sur la divinité de Jésus qui est Dieu, sur la seigneurie de Jésus dans sa vie et que tout cela n'est pas juste une croyance extérieure, mais c'est personnel. C'est mon Seigneur qui a la seigneurie dans ma vie et c'est mon Dieu qui est le Dieu de ma vie. Quelle déclaration! Et ce n'est pas la seule et première fois ici qu'on voit dans les Écritures, dans les Évangiles, des gens faire des déclarations de Jésus comme Dieu, de l'adorer et que Jésus accueille. Il accueille cette adoration parce qu'il est Dieu incarné en homme en tant que fils de Dieu. Il est Dieu fait chair. Et donc, toute adoration, toute exclamation de sa divinité, tout acte qui serait un acte d'adoration qu'on ferait à Dieu est tout à fait légitime de le faire à Jésus. Et Jésus l'accueille ici. Mon Seigneur et mon Dieu. Et dans le témoignage de chacune des personnes qu'on a entendues la semaine dernière, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont été baptisées, en somme, ils résumaient leur vie en disant ça. Je confesse que Jésus est mon Seigneur et il est mon Dieu. C'est la déclaration de foi d'un croyant. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est le Dieu qui a pourvu un sauveur, mais il a aussi la seigneurie de ma vie. Est-ce que Jésus a la seigneurie de ta vie? Hey, c'est gros, ça. Il est mon Seigneur. C'est-à-dire, il est maître de ma vie. Je lui ai donné le volant de ma vie, le volant de mon auto, que je lui donne le volant de mes décisions du travail, que je lui donne le volant, la seigneurie de mon éducation des enfants ou de prendre soin de mes petits-enfants et de mes enfants qui sont partis de la maison. Qu'il a le contrôle sur ma gestion financière, duquel il a la seigneurie. Est-ce que Jésus a la seigneurie dans ma vie? C'est toute qu'une question ce matin. Et c'est toute qu'une déclaration qu'on est confronté de Thomas, qui doutait et qui fait de Jésus son Seigneur et son Dieu. Wow! Vous savez, la tradition nous dit que, et là ici ce n'est que de la tradition, souvent, il y a des fondements de vérité, souvent dans beaucoup de traditions. Mais on dit qu'après la résurrection, Thomas aurait voyagé en Perse, puis jusqu'en Inde. Il est considéré comme le fondateur de l'Église indienne. Est-ce que vous saviez ça? Je ne le savais pas, moi. Communauté chrétienne, il aurait fondé la communauté Syro-Malabar dans le Kerala, dans cette région-là du monde, encore existant aujourd'hui selon la tradition. Martyr, la tradition veut que Thomas soit martyr en Inde, transpercé par une lance. Et son tombeau présumé se trouve dans la crypte de la basilique Saint-Thomas à Chennai, en Inde. Il semble que Thomas a fait du chemin après avoir adressé ses doutes. Et il semble qu'après le doute, tu peux changer le monde avec Jésus. Si tu suis la volonté de Dieu dans ta vie, et qu'il t'amène là où qu'il veut que tu ailles. Et il l'a amené à voyager loin et à porter l'Évangile dont les traditions de son œuvre d'évangélisation sont encore entendues jusqu'à ce jour, que cet homme-là a marché pour Jésus après la résurrection et après avoir rencontré Jésus. J'aimerais avec vous terminer Jésus qui rencontre Thomas avec quelques observations. Et Jésus qui dit « Ne sois pas incroyant, mais croyant. » Et c'est peut-être l'invitation que Jésus t'invite ce matin à avoir avec ta situation, ou peut-être avec ta propre vie que tu n'as pas encore donnée à Jésus. Si tu n'as pas encore donné la seigneurie de ta vie à Jésus, Jésus t'invite avec la même phrase, « Arrête d'être un incroyant. » Arrête d'être incrédule. C'est ça que ça veut dire, incrédule. Un non-croyant. Mais sois croyant. Crois en qui Jésus est. Et Jésus invite avec cette phrase. On voit la loyauté dans l'incertitude. Vous savez, la loyauté, c'est que malgré que j'ai des incertitudes devant moi, peut-être Jésus avant la mort, ben écoute, je fais tellement confiance à Jésus que je vais avancer avec lui, peu importe où ça m'amène. Vous savez, il y avait ça. Même dans son doute qu'on voit là, il y avait déjà ça dans sa vie, Thomas. Loyauté à Jésus. Prêt à le suivre, peu importe le coût. Les questions sincères, vous savez, ouvrent la voie pour la révélation. Osons poser nos questions sincèrement. Arrêtons d'avoir peur de ce que les autres vont penser de nous. Ça nous gèle, ça nous fige sur place. Que le Seigneur nous accorde la délivrance de la crainte des hommes qui nous empêche d'être honnêtes, qui nous empêche de poser les questions, d'adresser les choses qui nous préoccupent. Et de cette belle déclaration, cette belle question de Thomas nous vient une des grandes révélations du Nouveau Testament dans la personne de Jésus-Christ qui nous déclare son identité. Jésus répond à notre doute par sa présence. Thomas n'était pas en paix. Thomas était en doute. Thomas était dans le stress. Thomas était dans l'anxiété que cause l'incrédulité. Parce que quand on ne croit pas, il y a beaucoup d'inquiétudes face à la vie. La vie, il y a beaucoup de stress. Mais là, tu essaies de tout contrôler, mais tu es stressé. Parce que tu ne contrôles pas tout. Mais tu essaies. Puis d'essayer, c'est stressant. Mais quand tu donnes la Seigneurie à Jésus, tu remets le divin contrôle de ta vie à celui qui est au contrôle de tout, puis tu lui fais confiance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout à coup, je peux être en paix. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il vient quand il se présente à lui? La paix soit avec vous. Parce que c'est un stress quand quelqu'un rentre dans la pièce, puis c'est pas à éviter, puis il est ressuscité des morts. Ça peut être stressant la première fois que tu le vois. Hein? Non, non. Hey, sois en paix. Jésus, sois en paix. C'est ce qu'il t'offre, la paix de sa présence. Sa présence qui répond à ton doute. Ses attributs de Dieu. Ses certitudes sur Dieu par Jésus qui calme ta situation. La situation que tu ne maîtrises pas. Et que Dieu veut juste que tu le reconnaisses. « Hey Seigneur, j'essaie de contrôler, puis je ne l'ai vraiment pas. » Puis là, je patauge, je fais des niaiseries, je dis des mensonges. J'essaie de contrôler du monde, je suis repoussant. « Seigneur, je te demande pardon, là, j'essaie de contrôler les choses et j'ai perdu la paix. » Peut-être que c'est ça votre prière ce matin. Je te demande pardon. Là, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie, là, je te donne cette situation-là. Redonne-moi la paix qui m'a été volée par le doute. Que tu mérites ma confiance. Entièrement. Et tu l'as montré dans le passé, dans telle situation, tu mérites ma confiance. Mes expériences avec le doute dans les moments difficiles, souviens-toi-en de tes expériences avec Dieu. Moi, là, j'ai besoin de me souvenir régulièrement de ce qui s'est passé en Ukraine. On a vécu des expériences là qui ont beaucoup forgé notre foi, qui ont mis à l'épreuve notre foi. On a pris des leçons qu'on n'aurait jamais appris autrement et qui nous ont préparés pour d'autres difficultés. Ça a été un tremplin. Je dois m'en rappeler de comment Dieu a été fidèle. Je dois le vanter, le raconter à mes enfants, la fidélité de Dieu. Donner ces histoires qui inspirent confiance et les rappeler à mon âme qui les oublie quand je suis devant un Goliath puis que c'est intimidant encore. Mais j'en ai peut-être déjà vécu un autre Goliath, mais il y avait 6 pouces de moins. Dieu m'a préparé pour le prochain qui a 6 pouces de plus. Vous me suivez? Dieu nous équipe. N'oublions pas ce souvenir des hauts moments où ce que Dieu nous a transportés. Nos fragilités peuvent devenir des témoignages puissants quand elles sont confiées à Christ, quand elles se confient à Christ. Et là, on peut le raconter aux autres, fortifier la foi des autres. Tu sais, quand quelqu'un vit quelque chose, puis là, quelqu'un a vécu quelque chose de comparable, puis il raconte ce qu'il a vécu avec Dieu, ça fortifie la foi de l'autre. Pas pour le moraliser, pour l'encourager. « Hey, Dieu mérite ta confiance. Fais-y confiance avec ton cancer. » Fais-y confiance avec ta perte d'emploi. Fais-y confiance avec ton célibat. Fais-y confiance avec ton problème de couple. T'es pas tout seul, il y en a d'autres. Ils ont demandé à Dieu. Puis Dieu ne me donnera pas la délivrance de la même façon 2 fois. Pour pas que tu te confies dans le moyen, mais dans le Dieu qui est au contrôle, qui a la Seigneurie. La vraie foi, vous savez, s'exprime dans la confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Avez-vous dit ces paroles à Jésus? Mon Seigneur et mon Dieu. Lui avez-vous dit cette semaine pour votre problème que vous vivez présentement? Ah, mon Seigneur et mon Dieu, je te donne ma situation. Devant votre inquiétude, devant votre enfant qui vous fait faire de l'eczéma, là, hein? Avec ses mauvaises décisions, devant le conjoint qui n'écoute pas, puis vous lui avez dit de ne pas faire ça, ou la conjointe qui n'écoute pas, puis là, la situation financière qui vous inquiète, vos dettes. Mon Seigneur et mon Dieu, je te fais confiance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est le prochain pas? C'est suffisant pour moi. Regardez ce qu'il dit dans les derniers versets après ça. À nous qui lisons 2000 ans plus tard, Jésus dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Ça, c'est vous et moi. Si on décide de croire, on est béni sans avoir vu Jésus de nos propres yeux, mais sur le témoignage de ceux qui l'ont vu, qui l'ont raconté, sur un témoignage qui est fiable, sur un témoignage qui est solide, qui a des milliers de manuscrits qui ont été traduits dans des centaines de langues et qui sont venus jusqu'à nous, qui n'ont pas changé, que cette même parole 2000 ans plus tard change des vies encore aujourd'hui et que c'est rien de nouveau, qu'on l'a entendu la semaine passée et il continue à le faire cette semaine et il va le faire la semaine prochaine, puis il le fait aujourd'hui, puis il continue maintenant. Il mérite ma confiance. Et il dira donc, Jésus a opéré sous les yeux des disciples bien d'autres signes, tout de suite après au verset 30, qui ne sont pas racontés dans son livre, parce qu'il dit, je pourrais te raconter finalement 12 volumes, gros comme la Bible, tout ce que fait de plus, ça ne changera rien à ton défi de croire en Jésus. Ce n'est pas le nombre de miracles qui vont faire la différence qu'on te raconte, mais ceux qui ont été bien préservés, racontés. Est-ce que tu crois dans celui qui a fait les miracles? Pas dans les miracles. Croire dans les miracles ne te changera pas, ne te sauvera pas de tes péchés. C'est de croire dans celui qui a les miracles. C'est l'objet de ta foi qui fait la différence. On a tous une foi sur quelque chose. Et la plupart d'entre nous avions une foi en nous-mêmes, dans mes capacités de réussir dans la vie, dans ma volonté, dans si tu travailles fort, tu vas récolter ce que tu sèmes. Et à un moment donné, on a dû se tourner et dire, non, mon Seigneur et mon Dieu, ce n'est pas lié à moi. On a changé de foi en moi-même, en Dieu. Mais c'est facile de revenir à mon moi-même en avançant avec mon Dieu. C'est facile, on y revient régulièrement. Mais on a toute la foi en quelque chose. La différence, c'est l'objet de ma foi qui fait la différence. Ce n'est pas le miracle, c'est celui qui a fait des miracles, son identité. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Il dit, ceux-ci l'ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est son identité. Et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie. Il y en a parlé dans chapitre 14, hein? Le chemin, la vérité. Et la vie, celle qui dure après cette vie, celle qui est éternelle, celle qui transcende le temporaire, celle qui est pardonnée par Jésus-Christ de nos péchés et qui nous permet de continuer en sa présence pour toujours. Est-ce que vous l'avez ce matin, cette vie? Est-ce que vous avez cette paix dans votre cœur? Ce matin, j'aimerais prier avec vous en terminant, et j'invite l'équipe de louange à s'approcher. Et peu importe le défi ce matin, ta lutte, j'aimerais t'inviter à la donner à Jésus. Jésus, vous savez, a prouvé qu'il méritait notre confiance, pas juste par des miracles. Jésus est mort pour nos péchés, crucifié à la croix. Et il a vaincu la mort par sa résurrection. Et son pouvoir de résurrection confirme son identité et sa capacité, par son sacrifice expiatoire, de pardonner nos péchés et de vaincre tous les combats que nous avons besoin de mener avec lui. Il mérite notre confiance. Papa Céleste, nous nous courbons devant toi ce matin et nous voulons réaffirmer que tu mérites notre confiance, mais que, Seigneur, je reconnais ma fragilité, que dans mon humanité, j'ai de la misère, Seigneur. Moi, je regarde à droite et à gauche et je vois des vagues et je vois qu'ils sont sombres, que le soleil est bas, qu'il ne fait pas soleil et j'ai peur et je suis intimidé par la hauteur des vagues qui semblent frapper ma barque et la mettre en péril d'être submergée, Seigneur. Et je panique dans mon cœur. Je tente de pagayer, Seigneur. C'est ça qu'on fait dans notre humanité. On fait tout ce qu'on doit faire physiquement. Puis après ça, s'il n'y a rien d'autre, bien là, je vais prier. Seigneur, accorde-nous de commencer tout de suite à prier dans notre barque, alors qu'on marche sur ces eaux, qu'on marche sur cette terre et que c'est fragile, que tout autour de nous crée de l'anxiété, de l'angoisse. Tout autour de nous est là pour nous rappeler que c'est rempli d'incertitudes dans ce monde pécheur. Rappelle-moi que tu es ma certitude, ô mon Seigneur et mon Dieu, que tu mérites ma confiance, que je peux te confier chacun de mes problèmes au début du problème, pas au milieu, pas à la fin, quand j'ai tout fait ce que je devais faire. Mais que tu mérites ma confiance du début à la fin de ma quête, de mes questions. Oh Seigneur, je te demande pardon parce que cette semaine, il y a des choses que j'ai tenté de régler par moi-même. J'ai émis des opinions, j'ai dit des choses, mais dans mon humanité pour régler des affaires, mais souvent j'ai tenté de faire des choses sans toi. Je te demande pardon, Seigneur. C'est tellement facile pour moi. de tenter de régler mes affaires de mes forces, avec ma connaissance, ma sagesse, mes moyens. Mais Seigneur, j'ai proclamé que tu es le Seigneur de ma vie. Et je veux ce matin le réaffirmer. Prends toute la seigneurie de ma vie. Je veux te la soumettre. Te faire confiance que si tu as dit quelque chose, je veux le faire parce que tu mérites ma confiance, même quand je ne comprends pas pourquoi tu as mis tel commandement. Ou que tu as mis sur mon cœur quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, mais que je dois faire. Je veux juste le faire, Seigneur, parce que tu es fiable. Et être fiable veut dire que tu es digne de confiance et donc que je peux avoir foi en toi. Seigneur, je te prie pour l'homme ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui reporte, qui écoute de semaine en semaine ta parole, mais qui sait dans le fond de son cœur, je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Je n'ai pas encore placé ma foi entière en Jésus. Ce matin, j'aimerais t'inviter, Jésus t'invite à le rencontrer et à dire cette simple prière, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas fait confiance encore, parce que je suis un pécheur. Je mène ma vie comme je veux et je ne veux pas te laisser contrôler. Je le reconnais, je te demande pardon. C'est inacceptable de la part de moi qui est une créature. J'ai honte et je te demande pardon. Je veux croire en toi, qui Jésus est, ton Fils, qui tu es, et accepter toute ton identité, ton sacrifice pour moi, que tu étais sans péché, que tu es vraiment ressuscité. Je veux le croire ce matin comme Thomas et dire « Mon Seigneur et mon Dieu » et faire de cette foi une foi personnelle avec Jésus, avec le Père céleste qui l'a envoyé et l'Esprit Saint qui veut entrer en moi. Oh Seigneur, fais ta demeure en moi. Fais de moi ton enfant, ton fils, ta fille, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Bonne semaine.